Bonsoir. Alors, j'adresse mes remerciements à Philippe Munda qui nous accueille ici et qui vous fera une présentation du lieu après la conversation, le lieu donc salon du salon. Donc, il nous accueille ici pour cette conversation autour des lectures de Vincent Pilomé. Mes remerciements comptent aussi à Claire de Chivray pour son soutien logistique. Vincent Tholomé vient de Belgique, poète et critique, il écrit dans plusieurs revues. Certains de ses livres ont été traduits parmi la quinzaine que comportent ses publications, et son activité de performeur se décline en de multiples projets scéniques à l'international. Pendant cette soirée, il échangera avec Hervé Castaner. Je n'écris que parce que je lis, et c'est parce que d'autres écrivent que j'écris. Cette phrase résonne comme une invitation à questionner ce qu'habiter le langage peut produire, chez des poètes notamment. Chez Vincent Tholomé, l'écriture est large et multiple. Pourrions-nous avancer qu'au-delà du sens, son écriture se construit dans l'articulation à sa voix et au mouvement de son corps lors de ses performances? Et ne trouverions-nous pas là, au-delà des dits, dans le dire et dans le geste, une dimension qui participe de l'écriture? Il y a quelques semaines, dans le cadre de sa résidence au CIPM, Centre International de Poésie de Marseille, il déclarait ne pouvoir écrire un texte s'il ne le parlait pas. Avec cette poésie performée, qui n'est pas sans lien avec celle de Bernard Heitzig, Christophe Tarkos ou Charles Penka, entre autres, se déploie un style qui laisse sa part au vivant du corps et à l'indicible qui surgit entre les mots. Vincent Tholomé sait s'entourer de poètes, comme Sébastien Wissner ou Laura Vasquez, ou de musiciens, comme Maya Jantard ou Xavier Dubois. L'écriture fait rencontre, se tisse souvent collectivement, et ses performances comportent alors une part d'improvisation. Vincent Tholomé a accepté ce soir de partager avec nous des extraits de son travail de création en cours. Nous allons l'entendre dès à présent. Merci à vous deux, cher Vincent Tholomé, cher Hervé Castaner, et très belle soirée à tous.
Alors, n'hésitez pas à nous dire si ça va trop fort le volume. Donc, c'est simplement pour avoir un peu de confort pour les personnes qui sont derrière, là-bas, tout dans le fond. Bonsoir à vous toutes là-bas. Donc, on peut diminuer le volume s'il faut, il n'y a pas de souci. Alors, comme Lionel l'a dit, je vais vous lire, interpréter en fait un travail en cours que je suis en train de faire pour le CIPM. Lionel l'a dit, je suis en résidence pour 2 mois, encore la fin de ce mois, le 30, je termine en fait, donc dans quelques jours. Et puis voilà, je vais vous lire ceci. Voilà. Vivre sur Mars. Poème tourniquet pour la chatte Nina. Nina, oh Nina, t'es là, oh Nina, viens, t'es là, oh Nina, pardon, viens, t'es là, oh Nina, te dérange là, non, pardon, viens, t'es là, oh Nina, ah si, te dérange là, non, pardon, viens, t'es là, oh Nina, ça se voilà, ah si, te dérange là, non, pardon, viens, t'es là, oh Nina, ça se sent là, ça se voit là, ah si, te dérange là, non, pardon, viens, t'es là, oh Nina, mais nous sommes deux, ça se sent là, ça se voit là, ah si, te dérange là, non, pardon, viens, t'es là, oh Nina, mardi 2, mais nous sommes deux, et ça se là, ça se voit là, ah si, te dérange là, non, pardon, viens, t'es là, oh Nina, 2h02, mardi 2, mais nous sommes deux, ça se sent là, ça se voit là, ah si, te dérange là, non, pardon, viens, t'es là, oh Nina, toi et moi, 2h02, mardi 2, Mais nous sommes deux, ça se sent là, ça se voit là. Ah si, si, te dérange là, non, pardon, pardon. Viens, t'es là, oh Nina. Pas de chance, toi et moi. 2h02, mardi 2. Mais nous sommes deux, ça se sent là, ça se voit là. Ah si, si, te dérange là, non, pardon, pardon. Viens, t'es là, oh Nina. Pour toi, pas de chance, toi et moi. 2h02, mardi 2. Mais nous sommes deux, ça se sent là, ça se voit là. Ah si, si, te dérange là, non, pardon, pardon. Viens, t'es là, oh Nina. Tout à tes pensées pour toi, pas de chance. Toi et moi, 2h02, mardi 2. Mais nous sommes deux, ça se sent là, ça se voit là. Ah si, si, te dérange là, non, pardon, pardon. Viens, t'es là, oh Nina. Dans le salon, tout à tes pensées pour toi, pas de chance. Toi et moi, 2h02, mardi 2. Mais nous sommes deux, ça se sent là, ça se voit là. Ah si, si, te dérange là, non, pardon, pardon. Viens, t'es là, oh Nina. Sur la table, dans le salon, tout à tes pensées pour toi. Pas de chance, toi et moi, 2h02, mardi 2. Mais nous sommes deux, ça se sent là, ça se voit là. Ah si, si, te dérange là, non, pardon, pardon. Viens, t'es là, oh Nina. Et je te dis, sur la table, dans le salon, tout à tes pensées pour toi, pas de chance, toi et moi, 2h02, mardi 2, mais nous sommes deux, ça se sent là, ça se voit là, ah si, si, te dérange là, non, pardon, viens, t'es là, oh, Nina, viens. Bientôt, mon départ, bientôt, oui, mon départ, bientôt, pour Mars. Oui, mon départ, bientôt, dans 2 minutes 2, pour Mars. Oui, mon départ, bientôt, et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars. Oui, mon départ, bientôt, Nina, et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars. Oui, mon départ, bientôt, ma main, Nina, et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars. Oui, mon départ, bientôt, ma bouche, ma main, Nina, et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt, mais non, ma bouche, ma main, Nina, et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt, sur ta tête, mais non, ma bouche, ma main, Nina, et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt, j'avance sur ta tête, mais non, ma bouche, ma main, Nina, et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt, Mais si, j'avance sur ta tête, mais non, ma main, Nina, et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt, là, je recule, mais si, j'avance sur ta tête, mais non, ma main, Nina, et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt, tu crois, là, je recule, mais si, j'avance sur ta tête, mais non, ma main, Nina, et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt, tu crois là? Je recule. Mais si, j'avance sur ta tête. Mais non, ma bouche, ma main, Nina. Et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt. Rien que nous deux. Tu crois? Là, je recule. Mais si, j'avance sur ta tête. Mais non, ma bouche, ma main, Nina. Et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt. Voilà, rien que nous deux. Tu crois? Là, je recule. Mais si, j'avance sur ta tête. Mais non, ma bouche, ma main, Nina. Et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt. Ha! Voilà, rien que nous deux. Tu crois? Là, je recule. Mais si, j'avance sur ta tête. Mais non, ma bouche, ma main, Nina. Et je te dis, dans 2 minutes 2, pour Mars, oui, mon départ, bientôt. Ha! Et je te dis, Nina, 2h02, dans le salon, ma bouche, baise ta bouche. Mardi de 2h02, dans le salon, toi et moi. Et rien que, puisse ma bouche baiser ta bouche encore, comme elle baise ta bouche, 2 minutes 2, avant mon grand départ, pour Mars. La planète Mars, ses gabions, ses poissons, ses esprits fendus. Voilà.
Thank you. petit peu de temps après la lecture. Puisque cette façon de lire, cette façon de dire un texte, je crois, doit être séparée ensuite d'une voix qui vient après. Et donc on a prévu avec Vincent Tolomé petite conversation mais c'est, volontairement je parle assez lentement donc on ne recouvre pas trop vite ce qu'on vient d'entendre. Donc quand on s'est vu l'autre jour, vous nous avez montré votre cahier et vous m'avez dit, mais avec la voix que vous avez quand vous parlez du monde, pas de la poésie, vous m'avez dit qu'il y avait un certain système de notation et donc il y avait vraiment là où nous ne devions pas aller dans une conversation qui est qu'est-ce que ça veut dire. Et je crois que vous étiez parfaitement d'accord avec ça, mais bien plutôt qu'est-ce que la langue fait. Mais là, il y a plus. C'est qu'est-ce que la langue fait, elle pourrait le faire silencieusement. Qu'est-ce que la langue fait quand elle va être dite. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous y prenez pour que votre cahier et ensuite ce texte, ces inscriptions, ces flèches, ces trois points de suspension et en dessous trois points de suspension, etc. Donc, c'était dans un premier temps comme ça. Comment vous y prenez pour qu'ensuite il y ait cette voix, cette lecture, ce corps.
Ben d'abord, il faut savoir, c'est vrai qu'il y a un système de notation, comme vous dites. Ce système, il ne vient pas de nulle part. C'est un système de notation, en fait, pour noter les inflexions de voix, les un peu plus aiguës, un peu moins aiguës, plus graves. Les trois points de suspension, là, comme vous dites, ça, ce sont les allongements de voyelles ou de syllabes. Je viens de Belgique, j'ai tendance à rallonger sévèrement les voyelles. Donc voilà, c'est un système de notation par rapport à un texte déjà, enfin, que j'ai commencé à écrire ici en début mai. Je ne pensais pas du tout aller vers ce genre de système de notation. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis très très longtemps, en fait, d'arriver à noter la voix parlée. On peut faire pour noter la voix parlée, de quelle manière, si on la note simplement avec un système typographique habituel, il manque toujours quelque chose, même beaucoup. Il n'y a pas les inflexions de voix, ne sont pas notées, les allongements de voyelles, les accents ne sont pas notés, rien n'est noté. Les intensités aussi, rien n'est noté. Donc c'est quelque chose que j'aurais bien voulu, ça fait pas mal de temps, j'aurais bien voulu que je veux en fait noter toutes ces choses par écrit, comment on note les inflexions de voix, etc. Et c'est par hasard, vraiment, heureux hasard, j'étais invité à un festival à Brême il y a peut-être un mois et demi. Et là, j'ai rencontré deux Suisses, Vincent Barras et Jacques Denière, qui travaillent énormément sur la phonétique. Ils sont des poètes sonores, donc essentiellement, ils travaillent essentiellement sur les phonèmes. Et puis ils ont commencé à enregistrer en fait leurs conversations de travail et à les noter, à trouver un système de notation pour noter les conversations de travail pour pouvoir les intégrer dans leur performance en fait, ces conversations, les bribes de conversations. Et donc Vincent et Jacques m'ont dit, ben voilà, oui, il existe des systèmes, va un peu voir tel système, tel autre système de notation. On peut trouver ça dans la linguistique notamment. Et c'est de cette façon-là, ben, je suis allé voir un peu ce qu'il y avait en linguistique. bien que ce qui est noté sont les allongements de voyelles, des choses ainsi, les intensités ne sont pas notées. Donc il faut inventer son propre système de notation. Donc voilà, c'était un peu le concours de circonstances, en fait, à la fois un texte qui était en cours, une rencontre avec ces Suisses que je connaissais depuis quand même pas mal de temps, ça faisait un peu de temps qu'on ne s'était plus rencontrés, et puis des essais, en fait, essayer de retranscrire des bribes de conversations, de choses que j'avais écrites. Je les ai enregistrées, ces choses, pour entendre ma voix, noter ma voix, quelles sont les inflexions de voix. Et puis voilà, les pousser un peu à l'extrême, une fois que c'est noté de cette façon-là. Puis alors j'ai commencé aussi à chipoter un petit peu, à réarranger le texte, je veux dire de façon plus musicale, alors, en oubliant un peu le sens, plutôt aller vers de la musique en tout cas, notation plus musicale. Les deux extraits que je viens de dire, ben, vont dans ce sens-là. En fait. C'est un concours de circonstances, d'aménagement, d'un changement de choses, en fait, de rencontres et d'outils que je rencontre. Ben voilà, ça peut m'a. C'est peut-être intéressant comme piste, donc je l'attends, je l'atteste en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se fait.
Mais si je comprends bien, vous me direz, Vincent, c'est d'abord il y a le texte écrit, sans que la façon de le dire intervienne. Et ensuite, et alors à quel moment et pourquoi, il y a les notations lorsqu'il va falloir le dire, c'est ça ? À le lire.
Mm-hmm. En tout cas, pour ce texte-là, oui, c'est parti comme ça. En tout cas, oui, il y avait d'abord un texte écrit. Et la manière dont je le retravaille pour l'instant, en ajoutant les notations, le texte écrit explose complètement, n'existe plus.
Il explose ?
Ah, oui, complètement. Ça devient vraiment comme une partition musicale. Donc, pour l'instant, en tout cas, il y a cette trame, elle existe, donc voilà, il y a des bribes, des fragments de ce texte écrit, mais ces fragments sont vraiment passés, comme je dirais, à la moulinette quelque part de la notation. Une fois que vous commencez à noter, la dimension écrite, en fait, tout d'un coup, ben voilà, la dimension physique, corporelle, en fait, prend le pas sur la dimension écrite. Et oui, à la base, il y avait un texte écrit, mais là, pour l'instant, je ne sais pas trop vers où ça va aller, c'est en cours, donc pour l'instant, c'est un peu le grand mystère de vers où ça va. Et comme je vous dis, le texte écrit est en train d'exploser quelque part avec cette notation.
Ouais. Je vous avais un peu prévenu que c'était intéressant de travailler sur comment vous vous y prenez. Et je voudrais revenir. Donc il y a le texte qui est écrit. On pourrait dire le texte numéro 1. Je suppose qu'il y a les ratures, les reprises, et puis à un moment donné, vous dites, voilà, ça va être le texte 1, il tient à peu près. Et ensuite, vous le lisez à haute voix et vous marquez les annotations comme pour se souvenir de comment vous l'avez lu, ou vous marquez silencieusement les annotations, comme quelqu'un qui écrirait de la musique, sans le piano, par exemple.
En fait, dès l'écriture même du texte numéro 1, pour reprendre ce que vous dites, dès l'écriture du texte numéro 1, je le dis en même temps que je l'écris, en fait, ce texte.
Vous le dites à haute voix?
Oui.
À vous-même?
Oui. Oui. Il y a quelques années, 4-5 ans, j'étais dans le Jura, en résidence, pendant 5 mois, durant l'hiver. Ça change un peu de la chaleur marseillaise. L'hiver dans le Jura, c'est quand même moins 15, moins 20. Et pendant tout un temps, en fait, je commençais à écrire et ça n'allait pas du tout. L'écriture ne fonctionnait pas, le texte n'arrivait pas à prendre forme. Je ne voyais pas du tout vers où j'allais. Puis je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une chose que je ne faisais pas, que je ne m'autorisais pas à faire, n'étant pas chez moi, en fait. C'était, en même temps que j'écrivais, de dire le texte, en même temps qu'il s'écrivait, pour en trouver un rythme, pour trouver une espèce d'état dans lequel vous vous mettez en l'écrivant, en vous le disant en haut point en même temps. Et dès que j'ai commencé à me dire ce que j'étais en train d'écrire, ben, ok, le texte a commencé à prendre forme en fait. Donc la dimension orale, enfin oralisée en tout cas ce qui est écrit, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment, je dirais, essentiel. Si je ne peux pas le faire, si on me prive de le faire, ou si je me prive de le faire, il n'y a pas de texte qui me satisfait, en tout cas qui va surgir, aucun texte ne surgira. Donc il y a déjà cette dimension orale pendant l'écriture. Puis je ne sais plus ce que vous allez monter.
Ça.
Ça, ben voilà, voilà, voilà. Donc du coup, ben, au niveau de... Il y a déjà donc cette oralisation quelque part, ce qui fait que plus il y a de versions de ce texte numéro 1, plus cette oralisation se précise en fait. Se précise, il y a des inflexions se posent différemment, et puis je le prends simplement pour le plaisir de le dire. Je me pose la question de savoir mais comment je pourrais le dire en public ce texte-là, quelle dimension corporelle, oui, physique, je pourrais ajouter. Et donc c'est sur cette version-là en fait que j'ai enregistrée, xème version de la mouture écrite du texte numéro 1, que j'ai enregistrée en partie en tout cas. Et puis c'est à partir de cette version-là que ben voilà, je me suis dit, ok, ça, cette inflexion m'intéresse, cette façon de dire tel mot, telle structure de phrase m'intéresse, je les garde. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je peux agencer ces inflexions qui m'intéressent dans un texte, enfin dans une partition plutôt en tirant vers la musique. Ouais. Ouais.
Alors il y avait le texte numéro 1. Pourrait-on dire que votre cahier, c'est le texte numéro 2? Et est-ce qu'il y aura le texte numéro 3, c'est-à-dire celui qu'on trouve dans le livre? Sans les annotations, c'est ça?
Moi, j'aurais bien envie, ici, cette fois-ci, en fait, comme c'est beaucoup... Je n'ai jamais travaillé autant au niveau des annotations, en fait. Enfin, j'ai jamais travaillé avec des annotations aussi précises. D'habitude, c'est de travailler de mémoire, en fait. Je sais que là... Pour lire ce texte, je le lis de telle manière, voilà, j'essaie de mémoriser la façon d'infléchir la voix, j'ai envie de dire. Ici, c'est la première fois que j'utilise vraiment un système de notation. J'aurais vraiment envie de publier avec ce système de notation, en fait. Avec le système de notation, dans la mesure où c'est quelque chose qui tire plus que d'autres livres. Vous avez deux livres ici devant vous, ce texte qui est en train de s'écrire. Il y a beaucoup plus vers la musique en fait que ces autres textes-là. Donc je pense que ça aurait du sens justement d'indiquer ces notations, de les publier avec à la limite une petite grille indiquant le code, quel serait le code, tel signe signifie ceci, tel autre signe ceci, telle inflexion de voix, tel ralentissement, etc. J'aurais envie de faire ça, de publier. Donc pas enlever le système de notation, pas pour celui-là. En tout cas, c'est le projet pour l'instant.
Donc ça produirait probablement un effet douloureux pour le lecteur, puisqu'il aurait le système de notation, mais il n'aurait que de l'écrit, et le système de notation, ça serait purement visuel. C'est-à-dire que ça serait la trace qui a eu une voix, la vôtre, un son, une sonorité, un corps, mais qu'on n'en a plus que des traces. C'est. Vous avez pensé, au fond, au lecteur devant les traces. Au fond, c'est comme si, à l'opéra, on nous distribuait la partition. Puis on disait « voilà », et que la scène reste vide.
Oui. En fait... Par expérience, je sais aussi que si vous travaillez fortement une langue dans un livre, vous publiez un livre avec une langue fortement influencée par l'oralité, il n'y a pas de système de notation, je sais très bien que par expérience, les lecteurs, les lectrices, en fait, lisent ce texte qui est fortement écrit, donc... sur base de langue orale, ils vont le lire comme ils lisent un roman, c'est-à-dire à toute vitesse, dans la tête, à toute vitesse, et puis au bout de deux pages, ils vont dire « Bon, je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que c'est que cette chose-là » Il suffit de leur dire « lisez-le à haute voix ». C'est beaucoup plus, là, ils rentrent plus facilement dedans. Ça, je sais par expérience. Ici, je me dis aussi, en publiant, enfin, avec le système de notation inscrit directement sur la page, la lecture ne peut plus se faire comme on lirait un roman. C'est impossible, ça va, votre lecture va être perturbée, va être ralentie. Et du coup, quelque chose de cette dimension physique, corporelle, j'espère en tout cas, pourrait passer chez le lecteur, même s'il lit le texte à voix basse. Il ne peut plus, ça va ralentir sa lecture. Ça va ralentir sa lecture. Et je pense que cette petite perturbation pourrait, j'espère en tout cas, induire chez le lecteur une autre trace que simplement la typographie, l'écriture, la mise en page habituelle d'un texte en fait. Simplement cette présence-là fait que justement il y a une présence autre que le sens, autre que les mots. Tout d'un coup, c'est une autre dimension qui apparaît. Du coup, ça me tente vraiment de tenter cette expérience de publier un livre où il y a un système de notation inscrite dans la page, quoi, pour que une présence soit perceptible, même à la lecture à voix basse.
Et en quelque sorte, là, alors, le sens aurait explosé. Mais c'est ce que vous dites. Sur quand on lit une certaine poésie, ça ne marche pas. Si on essaye de se raccrocher exclusivement au sens. Alors, effectivement, il y a une possibilité, c'est par exemple d'écrire sous la forme illisible, ou cryptée, ou suffisamment tendue pour que la syntaxe relativement démantibulée, très vite, on ne sait plus. Oui, sujet, verbe, complément. C'est une possibilité, ce type de poésie. Là, c'est par un autre moyen, il me semble. Vous me direz, hein, c'est-à-dire que c'est pas de toucher à l'illisible, voire à l'incompréhensible, parce qu'on ne comprend pas très vite. Ne pas comprendre, c'est assez rapide. Il suffit de bouger un peu la syntaxe, ça tombe. Donc, ce qui prouve qu'on a quand même une compréhension assez bébête et qu'on est obligé d'avoir nos repères et notre architecture. On perd vite pied. C'est peut-être comme les planchers, ils sont toujours horizontaux et on tient à peu près debout. Dès que ça change, vous voyez notre inadéquation avec un monde qui n'est pas plat. Qui n'est pas euclidien du début jusqu'à la fin, par exemple. Et là, si j'entends bien, c'est plutôt démantibuler le sens, non pas en le cryptant, non pas en jouant sur la syntaxe, mais par la voix. C'est faire exploser le sens par une irruption de voix. Est-ce que vous seriez d'accord ?
Oui, oui. Oui, c'est quelque chose. Comme Lionel l'a dit, j'ai beaucoup travaillé avec des musiciens.
Oui.
Et la dimension sonore, justement, j'ai beaucoup travaillé. Dans mon premier livre, en fait, c'était un livre aussi, pas travaillé avec des musiciens pour le coup, mais travaillé à partir de paroles volées, en fait, dans les restaurants, dans les transports en commun. Vous savez, dans les restaurants, vous êtes à table avec des amis. Vous connaissez très très bien leur conversation, vous savez de quoi ils vont parler, vous savez autour de quoi va tourner la conversation. Donc moi, ce que je faisais, c'était de me reculer, écouter ce qu'il y avait derrière moi, les conversations derrière moi. Donc je captais une bribe de conversation en ne comprenant ni les tenants ni les aboutissants de cette conversation. Et quand vous faites cette expérience-là, en fait, vous vous rendez compte que quasiment à chaque fois, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est quelque chose d'un peu étrange. Parce que justement, vous n'avez pas tous les fils vous permettant de comprendre cette conversation. Et ça m'intéressait beaucoup. D'avoir donc des mots très simples, des mots de conversation, très très simples, mais simplement par l'agencement, par la manière dont les personnes étaient en train de raconter leur histoire, leur inflexion de voix, c'était possible de perturber quelque part
le sens commun, j'ai envie de dire, le sens habituel qu'on entend par l'écriture, par le texte, de cette manière-là, par le son. Et c'est quelque chose, je crois, en tout cas, j'ai jamais beaucoup réfléchi à ces questions-là, mais quelque chose qui m'a en tout cas, qui m'a accompagné depuis ce premier livre jusqu'à maintenant. Il faut travailler avec les musiciens également. Travailler avec les musiciens, ça vous oblige aussi à écouter quelque part, surtout si vous travaillez avec des improvisateurs. Et si ça, ces musiciens improvisateurs sont osent le faire, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est accompagné de musiciens, s'ils osent le faire, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous font des propositions. Ils vous proposent, mine de rien, des pistes qui vont perturber votre propre lecture. Vous avez peut-être préparé un texte, ok. Vous dites, ok, je vais lire mon texte sans aucun. Comme j'ai envie de le lire. Mais là, tout d'un coup, vous êtes accompagné d'un musicien, ou de deux ou trois musiciens, qui vous font des propositions. Et donc, ce que vous aviez préparé, la lecture, si vous les écoutez, ces musiciens, la lecture que vous aviez préparée, bah, tout d'un coup, vous pouvez vous en détacher et reconstruire autre chose, improviser sur le texte, ou bien simplement, bah, voilà, la proposition des musiciens fait que ce que vous aviez prévu de dire de façon ultra rapide, très très vite, en vous emportant, en y mettant beaucoup d'intensité, la proposition, au contraire, va vers quelque chose de très très doux. Donc, ok, vous changez votre manière de dire. Et en faisant cela, le texte change, en fait, également. Tout d'un coup, vous dites, ben voilà, si je suis là en train de partir vers la douceur plutôt que vers l'emportement, ce qui va suivre après cette douceur, je ne pourrais pas le faire. Je vais devoir changer aussi. Donc, soit ne pas le lire, soit improviser autre chose pour pouvoir continuer malgré tout à dire, participe à faire le spectacle, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, le mot spectacle. Donc voilà, c'est un peu je sais pas si je réponds à votre question. C'était, je sais plus d'ailleurs votre question, c'était quoi?
C'était ma réponse.
Voilà, c'était ma réponse. Donc voilà, c'est un peu ce dialogue là, permanent, en fait, qui permet justement de... Oui, à la fin, un dialogue, oui, c'est ça, c'est une espèce de dialogue... au niveau du son, quelque part, donc rentrer former vraiment, avoir cette impression de former sur scène avec des musiciens, l'impression de former un groupe plutôt que d'être le poète qui va lire et puis qui est accompagné de musiciens, quoi. C'est une formule, ça, que j'aime pas trop, en fait, personnellement. Quand les musiciens restent en retrait, ils laissent la place au texte, en fait. J'aime bien quand il y a une espèce de dialogue qui se construit. Qui vient me perturber ce que vous aviez prévu, quoi, en fait.
Mais je reprendrai votre référence au fragment, aux bribes de discussion, de paroles entendues. Vous avez dit voler, dérober. Et quand même, ça procède, comme diraient les linguistes, même les grammairiens, ça procède plutôt par métonymie, par fragment, par bout. Et dès qu'on a un ensemble de bouts, de fragments, de métonymie rajoutée, c'est vrai que le sens explose, parce que le sens, on le récupère généralement par la métaphore, par la substitution, un mot à la place d'un autre, et grosso modo, on s'y retrouve. Alors que là, c'est plutôt de l'ordre du cheminement, de la rencontre, du contingent. La métaphore n'aime pas le contingent, elle ne sait pas faire. Elle peut surprendre, mais elle a sa grande construction, la grande métaphore, et puis elle a les petites métonymies comme ça, avec les objets qui commencent à flotter. Il me semble que c'est ça que vous essayez, dès le premier, vous l'avez dit, de marquer qu'au fond, là où l'architecture s'avérerait avoir son début et sa fin, elle est perturbée, transformée, une architecture presque mouvante. Il y a un groupe qui aimait la poésie, qui voulait reprendre la phrase de Lautréamont, la poésie de fête, non pas par un, mais par tous. Et ils avaient quelques liens avec la Belgique, c'était les surréalistes. Effectivement, il y avait des projets d'architecture où l'architecture elle-même aurait eu ce que vous faisiez avec votre main, c'est-à-dire qu'elle s'éparpillerait, elle ne serait pas fixe, elle serait mouvante. Et quelque part, on emploie cette expression, l'architecture de la langue, l'architecture du propos. Les intellectuels savent ça, ils sont jugés là-dessus. Ils sont formés, formatés pour avoir l'architecture et ne jamais la perdre. S'ils la perdent, c'est moins bien vu. Et là, quand on est affronté à votre lecture, c'est dans ces interstices, au fond, la voix, les phrases, les autres architectures. Et ça ne se centre pas forcément. Vous seriez d'accord que ce n'est pas un espace centré, l'architecture centrée.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose qui... effectivement, vous parlez de quelque chose qui est mouvant, quelque chose qui n'est pas fixé, effectivement, oui, c'est absolument ça. Les deux livres que vous avez là sur la table, que vous avez posés sur la table, fonctionnent comme de cette manière d'ailleurs. John Cage Experiences, et puis si je vais prononcer pour vous, Kelki Bayernist, voilà, voilà. Ce livre-là, justement, Kelki Bayernist, en fait, la manière dont ça a été écrit. C'est écrit sur l'instabilité. On ne sait jamais quand une phrase se termine, quand on passe à un autre bout de phrase. Donc le lecteur, quand il le lit, il y a certains lecteurs, ça agace profondément certains lecteurs, forcément. Où se termine la phrase, où elle commence-t-elle? Le seul signe de ponctuation, c'est le point. Et il y en a beaucoup. Du coup, le lecteur ne sait pas où s'arrêter. Et en fait, il peut s'arrêter peut-être un peu plus tard, peut-être une espèce d'instabilité constante, en fait. C'est une langue qui est constamment... qui n'est jamais stable, en fait. Donc, oui, c'est ce côté mouvant, c'est très important pour moi. D'être toujours... Enfin, de ne pas avoir... comment je dis... De ne pas avoir un projet au niveau de l'écriture, de ne pas avoir un projet... Mettons, ben voilà, ce livre pour le CIPM que je suis en train de faire, de ne pas avoir, dès le début, avant de commencer, une idée bien précise. Des envies, oui, envie de parler de ceci, envie de faire ça, et puis laisser, comme vous dites, les rencontres, les contingences, faire que le projet de départ va prendre telle tournure que je ne prévoyais pas. Les notations, je ne les prévoyais pas. C'est parce que j'ai rencontré ces Suisses à Brême que tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est l'occasion de tenter. Donc voilà, c'est vraiment les rencontres qui font, les choses qui se passent. Les textes, je les ai réécrits pour l'instant de cette manière-là, mais c'est simplement parce qu'avec Lionel, on a parlé de musique contemporaine, et puis il m'a dit, tiens, cette chose-là, peut-être, c'est peut-être intéressant. Du coup, je suis allé voir, et oui, ça m'intéresse, donc j'essaie. Voilà, c'est vraiment des circonstances qui font que le texte bouge et se fait petit à petit. Moi, je suis un peu je me considère comme une espèce d'artisan aussi, toujours qui n'a pas de comment je veux dire, qui est ouvert à ce qui se passe autour de lui, quoi, en fait. Au bon agencement que je peux avoir avec le monde autour de moi. Hein, ça peut être avec de la musique, avec quelqu'un qui me donne telle référence. Tiens, tu es en train de faire ça, regarde un peu ça. Okay. Oui, j'ai peut-être une bonne connexion sur le moment même avec cette chose qu'on est en train de me présenter. Et donc, oui, j'essaie de l'intégrer, en fait, petit à petit. Une chose à la fois, bien entendu, mais j'essaie de les intégrer. C'est comme ça que je fonctionne. Effectivement, sans avoir un plan, une architecture fixe à la base, quoi. Le moins fixe possible, en fait. Plus ouvert, quelque chose qui permette... J'aime bien appeler ça, enfin, comme les Amérindiens, ils parlent des attrape-rêves, dreamcatcher. Vous savez, les espèces de cercles avec les plumes et tout. C'est un peu ça, en fait, pour moi, un texte. C'est quand je commence à écrire... Voilà, la chose est là, et puis il faut que je capte, il faut que cette chose qui est en train de s'écrire puisse capter des rêves, des pistes qui pourraient la nourrir, cette chose, qui pourraient la pousser plus loin. Donc oui, il n'y a pas de centre en tant que tel.
Mais vous avez dit une chose à la fois. Et quand on vous entend, quand vous parlez de cette écriture, c'est une chose à la fois, plus une chose à la fois, plus une chose à la fois, mais les deux premières, une chose à la fois, sont maintenues, parce qu'il y a le texte, il y a la voix, il y a l'intonation, et donc à partir de là, il y a une conjonction. Moi je sais ce que c'est une chose à la fois, je le sais, parce que je viens, c'était hier soir, j'ai terminé un livre que l'éditeur attend, etc. Donc je me suis épuisé, je n'ai rien voulu lâcher par ailleurs tout ce que je faisais, donc c'était la nuit à chaque moment, etc. Ce qui fait que certains se demandent comment je fais, mais je fais. Et c'était chaque chose à la fois. Donc je ne peux pas les lire, par exemple, à haute voix. Je lis inlassablement les mêmes phrases, mais je les lis visuellement, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une seule chose à la fois. C'est-à-dire c'est un travail, au contraire, d'enlever tout ce qui pourrait équivoquer. Donc il faut que les relatifs soient impeccables. C'est pour ça que j'écris plutôt comme dans les années 60. Je ne veux pas écrire comme de nos jours. Enfin, je ne veux pas, c'est que je trouve ça... Je préfère comme dans les années 60. C'est-à-dire une chose à la fois. Et ce qui me paraît... et qui questionne beaucoup quand je vous entends. Je vous ai jamais entendu lire. J'ai déjà bavardé avec vous, mais vous n'avez pas entendu. Je n'ai pas écouté de disque ou d'enregistrement. Et à la limite, la lecture, je voyais comment elle trouait de façon systématique le « chaque chose à la fois ».« Chaque chose à la fois », c'est le propre du concept, par exemple, ou qu'on dit la pensée rationnelle. La marquise sortie à 5 heures, c'est une chose à la fois. Et là, c'est pas une chose à la fois, justement. Vous les utilisez chaque fois une par une, me semble-t-il. Mais le résultat, c'est que ça cohabite un peu comme dans l'objet que vous avez décrit des Amérindiens, c'est qu'on ne sait pas ce que le filet prend. Et puis, est-ce que le filet, c'est... Il est à la fois ses trous, ses... Parce que, par exemple, à la page 52 de votre texte sur John Cage, voilà la voilà ce que ça donne. Je lis avec mon style chaque chose à sa place, une chose à la fois. C'est comme si je vous parlais de mes nuits, mais vous passez des mois à écrire comme ça. Justement pas comme c'est écrit, mais comme je vais le lire. Disons, fâcheuse posture, oui, de sorte que, point. De sorte que, point. Alors que les amis, c'est-à-dire les phrases interrompues, pas avec le point de suspension, qui est une invite au sens. C'est que la phrase, avec son point, se réduit à de sorte que. Je vais vous dire, dans mon monde de l'écriture, dans le monde de mes nuits, je ne peux pas l'écrire de sorte que point. D'habitude, je ne parle pas de ce que je fais la nuit, ni de quoi que ce soit, mais on bavarde, si vous me permettez.
Oui, allez-y.
Bon, donc, c'est vraiment de sorte que point. La phrase qui suit, c'est alors que les amis, point. Je peux écrire et la famille, condition qu'il y ait une phrase qui précède, hormis une certaine cousine. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on lit, quand même, et qu'on fait et qu'on a une des fonctions dans la vie, c'est aussi d'écrire, pas de la littérature, je n'ai pas le talent évidemment, mais d'écrire, et qu'on tombe sur ce type de phrase, soit on dit c'est annexe, à la limite c'est un, met le texte, signé Vincent Tolomé, sous la rubrique « Exotisme poétique ». C'est une défense. C'est une défense. C'est une défense de lecteur. Exotisme, pas au sens moqueur, au sens du ex. C'est hors de. Et si on prend autrement, c'est-à-dire si on lit ça sérieusement encore, je ne fais que le lire. Mais la façon dont vous avez lu transforme même ce que je lis sans savoir comment vous, vous le liriez avec les annotations peut-être invisibles, mais il y a peut-être une encre, comme on dit, sympathique, on dit, qui se révélerait si j'étais agent secret en littérature. Bon. Et au fond, c'est que ça pose une question à toute personne qui écrit. L'enjeu de cette affaire. De sorte que. Prenez compte si on ferme le de sorte que. Si on met un point. Qu'on le fait sérieusement. On voit bien que ce n'est pas une erreur, que c'est calculé. On peut supposer, vous entendre, vous voir que c'est calculé. Mais rien que le de sorte que, c'est un coup porté contre. Contre une modalité de faire centre, par exemple. Soit on se dit la phrase est interrompue, donc ça agace. Qu'est-ce qu'il veut dire? Où sont les personnages? Ou même pas les personnages, parce qu'on peut être un peu plus cultivé, avoir l'habitude de faire sans personnages. Donc on peut avoir lu le nouveau roman, on peut avoir lu Rogrille, ou Sarotte, mais on se dit quand même, bon. Et ça a un effet sur, je crois... Qu'est-ce que c'est que la langue? Il faut la. Si vous voulez, quand on a deux sortes que points, même si on ne sait pas le faire, même si on ne sait pas comment le faire, même si on est démuni, on sait que ça excède la lecture et le sens. Ça implique quelque part une autre opération. Donc le lecteur, simplement de ce fragment, vous l'obligez. Le texte l'oblige, l'écriture l'oblige, le poème l'oblige, les mots dactylographiés l'obligent, il y en a des textes que j'ai de vous qui sont dans la machine. Ça oblige quand même à transformer notre monde. Alors on peut le refuser, on peut dire non. Mais que quand même, si de sorte que prend un point, c'est que la langue n'est plus ce qu'on a cru. Vous voyez ce que j'essaie de pointer.
Oui, mais on retombe sur cette question d'instabilité, de comment je veux dire, de... Il y a des personnes qui considèrent ce livre aussi, Kierkegaard, comme un roman. Moi, je ne sais pas ce que c'est, si c'est plutôt du côté roman ou côté poésie, j'en sais rien. Et je n'ai pas envie de trancher, vraiment. Parce qu'il y a des personnages, parce que, etc. Mais c'est pas un but en soi, en fait. C'est vraiment cette instabilité, en fait, quand je suis en train d'écrire, et que je me rends compte que tout d'un coup, ben voilà, il y a le fameux de sorte que arrive avec le point. Je jubile. Je suis content, en fait, que ces choses surgissent à un moment donné. En cours d'écriture, qui est quelque chose qui déstabilise. Enfin, je n'ai pas conscience que ça déstabilise, en fait. Mais là, quelque chose, tout d'un coup, je suis pris dans une espèce de flux de mouvement, en fait. De mouvement. Et là, quand j'arrive à un mouvement, qui est un mouvement qui se construit, qui est en train de se construire, là, oui, je me dis, là, ça va. Le texte est en train de prendre forme, est en train de se créer son propre chemin, est en train d'arriver à quelque chose. Et tant qu'il n'y a pas cette espèce de mouvement, de flux, quelque part, plutôt que de quelque chose de stable, j'ai pas ce plaisir d'écriture, en fait. J'ai pas le plaisir d'écrire. Enfin, j'ai l'impression que si je me mettais à écrire quelque chose de plus stable, plus sur des phrases avec des relatives, années 60, comme vous le disiez, comme dans vos nuits, j'ai l'impression que là, quelque part, là, moi, je ne trouverais pas mon compte, quelque part. mon plaisir d'écrire, en fait. Je ne le trouverai pas. Je cherche vraiment une mouvance, en fait. Une mouvance. Pas dans le but de déstabiliser le lecteur, c'est pas du tout ça. Mais simplement. Je pense que c'est lié à plein de choses, en fait. Plein de choses. La musique que j'écoute, ou ce que j'aime regarder comme film, ou. Les histoires que je pouvais entendre en étant enfant. Vous avez fait une confidence sur Volu, je vais faire une confidence sur un de mes oncles. Un de mes oncles qui, mine de rien, plus le temps avance, plus je me rends compte, il m'a influencé dans la manière de raconter quelque chose, d'essayer de raconter des choses. Cet oncle, en fait, quand on descendait du bus en rentrant de l'école, il habitait juste en face de l'arrêt de bus, et il était cordonnier. Quand on le voyait sur le pas de la porte, je ne sais pas si vous dites ça à Marseille, le pas de la porte.
Oui, oui.
Ok, sur le pas de la porte, c'est qu'il nous attendait. Il avait quelque chose à nous dire. Donc on allait près de lui, on allait c'était pour nous. Donc avec mes frères, on allait le voir. Et puis on savait qu'on allait en avoir pour des minutes et des minutes, voire des quarts d'heure entiers, avant de savoir ce qu'il voulait nous dire. C'était un homme, en fait, qui commençait une histoire, et puis il y avait une parenthèse. Ça partait vers autre chose, et puis une autre parenthèse, une autre parenthèse, une autre parenthèse. Et au bout de 10 minutes, bon, ben, on nous attendait à la maison pour manger, nous, pour faire notre devoir, etc. Donc on voulait partir. Après 10 minutes, un quart d'heure, on nous disait « Attends, j'ai pas fini. Je veux te dire quelque chose. » Oui, d'accord, mais ça fait un quart d'heure que tu parles, on ne sait toujours pas où tu veux aller, en fait. Donc il y avait un côté comme ça d'instabilité aussi dans sa manière de raconter. Sa manière de raconter où, de parenthèse en parenthèse, nous menait à... Ça pouvait aller très très loin, sans que les parenthèses ne se bouclent non plus. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui m'a... Je pense, oui, qui une des choses, en tout cas, qui m'a influencé, cette manière de raconter, en passant d'une chose à l'autre, en posant les choses, et puis, ça suit son petit bonhomme de chemin, quoi.
Mais... Je ne vous prêtais pas, en tant qu'auteur, une volonté ou une visée par rapport au lecteur. Pas du tout. Mais si on lisait ce petit fragment, pour moi aussi, lire avec sérieux, vous ne vous doutez pas de pouvoir mettre un point après ce que je vous avais dit, après l'expression « de sorte que c'est qu'on tombe comme lecteur devant un point inintégrable dans un système d'écriture. » Alors ça, on ne le prend pas au sérieux, on dit « alors on banalise ou on esthétise, est-ce que ça me plaît, ça ne me plaît pas, pourquoi est-ce que c'est le moment ?» Mais si on enlève au fond une forte, au fond c'est psychologie. Psychologie, c'est pas au quatrième, c'est au troisième, en dessous, lieu de l'obscénité. Donc, si on essaye de reprendre le fragment, c'est qu'au fond, il l'oblige à y mettre du sien. Soit alors on le prend et on se passive, le de sorte que de l'autre, soit, à la limite, on le laisse agir. Et là, ensuite, chacun se débrouille avec la façon dont il peut agir. Je reprends ça parce que vous avez parlé de jubilation. Donc on ne va pas jouer les gâteaux de sauce, tout mortifier, faire les grammairiens. En plus, c'est très suspect la grammaire, puisque avant la linguistique, la grammaire dite comparée veut construire une langue origine, l'indo-européen. C'est un mythe. C'est-à-dire que dès que vous tombez sur le grammairien sérieux, il pense qu'il y a une origine, une ur-langue, une langue première, à partir de laquelle les autres se seraient redupliqués. Le nazisme ayant eu beaucoup de plaisir à reprendre cela pour passer de la langue à la race. Aujourd'hui, les linguistes démontrent que c'est un mythe, l'indo-européen. Mais on pourrait se demander si ce n'est pas la pensée qui, quelque part, a ce mythe de la construction, la phrase, le vouloir dire, la signification, le bouclage. Or là, ce qui est très intéressant à me sentir, c'est que vous bouclez après de sorte que, et que là, on sort, c'est peut-être pour ça que ça pourrait avoir une dimension pour le lecteur, politique, une politique pour la langue, c'est que ça sort de « voilà ce que ça veut dire ». Parce que le « de sorte que », s'il y a des points de suspension, c'est une phrase interrompue. C'est-à-dire il y a un appel à la psychologie du personnage. C'est comme le nœud expletif français, je crains qu'il vienne, je crains qu'il ne vienne, je crains qu'il vienne, c'est un point, je crains qu'il ne vienne, c'est un point de suspension, qui fait qu'en quelque sorte la fiction commence à apparaître. Là, c'est de dire au fond que chaque fois qu'on parle, on a notre propre fiction et elles sont toutes équivalentes. On n'a pas un pouvoir particulier parce que on n'arrête pas le de sorte que par un point. Vous voyez, c'est de pointer ce que, comment, quand on touche à la langue, moi je crois, André, votre avis, qu'il y a une dimension politique, pas politicienne, une dimension politique parce qu'on touche à un point essentiel de comment tout ça tient. Dès qu'on touche à ce comment, à la façon dont ça tient, au fond la langue c'est ce qu'on partage. Si vous écriviez en islandais, je ne pourrais pas lire, d'abord je n'ai même pas pu lire le nom du petit village, je ne pourrais pas lire, donc ça nous unit la langue. Vous avez la version belge, la version française, ça nous unit. Et quand on y touche, comme à cette architecture, à cette façon de faire tenir ensemble, selon comment on y touche, ça a une dimension politique au sens fort. Et que si on arrête un de sorte que, bon, c'est un exemple, on pourrait en prendre des dizaines, peut-être même de plus subtils dans votre texte, mais c'est que quelque part, on se dit, ce qui vous apparaît comme l'évidence de la langue, c'est peut-être pas ça. Barthes, dans sa conférence d'introduction au Collège de France, il dit à un moment donné cette phrase qui avait tellement surpris, dérouté, c'était « la langue est fasciste ». Ce n'est pas la langue des fascistes, la langue est fasciste parce qu'elle est assez rhétorique, elle est prescriptive. Et dès qu'il y a des phrases comme ça, quelque part c'est un coup porté contre l'affirmation, c'est un coup porté contre la signification, un coup porté contre le sens. De sorte que au niveau du sens, vous ne pouvez pas. Je défie quelqu'un, vraiment très subtil, que le de sorte que est un sens. Le mot peut avoir une signification dans le lexique, ça existe évidemment. Bon, mais le de sorte que n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas décrire l'action en quelque sorte. Le sens c'est ça, c'est l'action. Et au fond, on se trouve affronté à une question que touchant la langue comme ça, ça veut dire que la langue n'est ni neutre, ni objective, qu'elle décrit pas. Et d'autant plus quand vous lisez où là, les mots eux-mêmes, le de sorte que, ils miroitent de toutes les intensités de la voix, par exemple. Parce que quand même, les mots, ils sont faits pour neutraliser les corps. Sauf parfois dans le discours amoureux, mais dont les linguistes balayent ça en disant que c'est la fonction fatigue du langage, transmission égale zéro. Donc c'est fait pour... Hein, c'est comme les caresses, donc ça ne les intéresse pas. Donc, dès qu'on a un mot, on l'universalise. Le grec antique illustre de façon mieux, puisqu'il n'y a pas d'extérieur à la langue grecque pour le grec. C'est sur les barbares, le barbarisme, et on est l'église quand on fait venir. Dès que vous touchez à la langue, fond, vous vous touchez à l'universel immédiatement en le particularisant. Bien sûr, on le particularise quand on écrit des phrases, toujours. Mais malgré tout, ça a une valeur universelle. On dit souvent ça. La culture doit avoir une valeur universelle. Quand vous lisez, par exemple, c'est le contraire d'un universel, puisque même le « de sorte que » ou le prénom de la femme, etc., il se déconnecte pour être une voix, une sonorité, une élasticité. Vous pensez que j'exagère en insistant sur cette dimension politique par rapport à la langue ?
En tout cas, là où ça fait écho à ce qui me passe par la tête quand je réfléchis à tout ce travail d'écriture, de mise en voix, etc., c'est effectivement le côté, rajouter cette dimension fatigue dont vous parliez, de la mettre en évidence quelque part, la mettre en évidence, parce que c'est justement quelque chose, qui me semble très, très important, en fait, qui est souvent négligé. Cette espèce de présence, cette présence qu'on a, rien que en disant un mot, la manière dont vous le dites, simplement ce mot, il prend une certaine couleur, une certaine dimension. Il se charge d'émotions, il se charge d'intensité, il se charge de plein de choses. Et si c'est juste ce mot est écrit sur un papier, très grande vague de poésie minimaliste qui écrivait très peu de mots par page, mais cette dimension fatigue n'était pas là, ça visait l'universalisme, l'universalité de la langue quelque part. Cette dimension n'était pas là, cette dimension-là. Effectivement, c'est quelque chose j'aime justement travailler avec ces particularités. Et en faisant cela, oui. Là, j'avais jamais réfléchi en termes de pointer, en faisant cela, à quel point ça pouvait perturber le lecteur de cette manière-là.
Ça pointe, ça attaque l'universel.
Oui, c'est ça, ça attaque l'universel. Ça attaque l'universel, et puis oui, il y a cette dimension particulière. Tout, chaque mot est particulier. La manière dont vous allez prononcer le mot, le titre, ce sera pas du livre, ce sera pas la même chose que moi. Il y a des charges différentes. Donc la langue universelle, quelque part, qui serait complètement déconnectée de la personne qui le dit, qui pourrait dire ces mots, qui pourrait les écrire, me semble effectivement quelque chose d'un peu... de pas très juste par rapport, en fait, par rapport à ce que chacun d'entre nous... notre manière à nous de dire cette langue. Chacun a une manière particulière de la dire, de l'écrire. Et mon avis, en tout cas, effectivement, qu'il y a cette dimension universelle dans la langue écrite, on passe à côté, justement, de ce qui, moi, me paraît important, qui est le côté particulier, en fait, le côté particulier. Donc, c'est un peu, dans ce sens-là, ce que vous dites fait écho à ce à quoi je pense quand je réfléchis un peu à tout ce travail autour de l'oralité, autour de la mise en voix, oui.
Parce que ça exclut que ça soit repris par moi-je, par le lecteur, par exemple. Parce que la poésie la plus minimaliste, qui s'arrête au moment d'un certain indicible, si moi je peux la lire avec beaucoup de difficultés, disons Jacoté, la lignée Jacoté, quel que soit le mérite des textes, c'est pas une critique, c'est une épreuve, une expérience dont je parle, c'est que ça, le mot d'arrêt d'indicible fait surgir la série des possibles ou des disciples. C'est pas du tout la façon que vous avez d'écrire. C'est pas je m'arrête au point même où le mot ciselé arrive par sa puissance à faire surgir l'indicible comme silence. Ça, parfois c'est très compliqué, il faut arriver à l'obtenir. côté ou d'autre y arrive avec pertinence, mais vous, c'est pas ça, c'est plutôt, c'est pas l'impuissance de la langue, la soumission à l'indicible, tel qu'il, même si on le recule, c'est l'exploit alors, vous reculez l'indicible. C'est plutôt, toutes ces fictions-là, ce sont des fictions, des constructions, des élaborations, des élucubrations. Et le plus singulier, c'est le moment où un mot sonorisé touche le corps et produit, entre autres, pas seulement, jubilation. C'est pas pareil. Il peut y avoir sûrement une jubilation chez Jacotet. Ou
c'est non, tout pas.
Tout ne pas. De toute façon, ça, c'est un homme très très âgé, donc on croit que la jubilation de ce type d'écriture a fait, ça l'a tenu en vie. C'est comme le prince Philippe d'Angleterre, il faut croire que s'être agenouillé devant la reine et lui dire « je vous servirai », parce que c'est à la fois son mari et à la fois son servant, je ne lui avais pas plu, il avait dit comme ça le jour du couronnement « ma reine, je vous défendrai jusqu'à la porte », et ça le tient. Maintenant, il prend un peu sa retraite, enfin, il a 95 ans. Ça doit être l'âge de Jacotet. Bon. Et donc, on voit bien que ça peut faire tenir. Mais là, c'est une autre modalité. C'est tenir par le plus singulier, le plus intime. C'est très intime quand vous lisez. Alors que moi, quand j'écris, je n'écoute jamais aucun enregistrement de moi. Je ne peux pas, je ne veux pas, ni aucune image, donc je ne me vois pas, YouTube et tout ça, je n'écoute pas, les émissions de télé, je ne les vois jamais, parce que au fond, dans les années 60, cette façon de dire, je rêve d'être grec, c'est-à-dire que le Logos tout-puissant énonce sans extérieur ce qu'il a à dire, même pour dire le plus singulier. Eh bien, là, la leçon que vous donnez au logos à partir du petit grain de sable que je suis par rapport à ce logos là, c'est oui, d'accord, les grandes fictions, mais le plus singulier d'un corps qui lui n'est pas universalisable. Vous n'avez pas un corps universalisable. J'ai pas un corps universalisable. C'est pas vrai de penser universalisable, de rêver tout au moins. Au fond, vous, si vous me permettez, bien, je vous en pensez, mais vous me permettez, vous gâchez un peu nos rêves pour nous rendre vivants.
Ah bon? Moi, j'aurais envie de vous répondre simplement. J'ai une amie avec qui je travaille beaucoup, qui est Maya Yantar, une dame qui se situe à la fois dans le domaine des arts plastiques, de l'écriture un peu, et aussi essentiellement en fait du côté de c'est une artiste vocale, donc elle improvise des chants, elle improvise sa propre langue, une grande improvisatrice au niveau de la voix. Sa mère d'ailleurs habite dans le coin, pas très loin. Donc Maya me disait tout très simplement, c'était quelque chose qu'elle avait noté dans son carnet, c'est pas d'elle en fait, elle avait repris, c'était une chanteuse qui disait ça, une chanteuse d'opéra, qui disait, pour que je me souvienne, la nudité de la femme, c'est sa voix.
Oui.
C'est ça, la nudité de la femme, c'est sa voix. Donc vous parliez d'intimité, de voilà. Donc ça veut dire ben, la voix, c'est-à-dire tout, il y a le grain de la voix qui. Ça rejoint un peu ce que vous disiez là. Quoi. Donc voilà, j'ai simplement envie de répondre avec cette citation. Oui, il y a quelque chose de très intime à lire des textes de cette manière-là. Je ne dis pas grand-chose sur ma vie, mon vécu, etc. Rien du tout. Mais je sais très bien que, oui, il peut y avoir telle inflexion de voix, telle chose, il y a un impact quelque part. Et sur moi, en le disant, et peut-être sur des personnes qui l'entendent, je le sais. C'est au-delà du mot qui est dit, qui est énoncé, il y a ça. C'est cette présence-là qui peut faire... qui a peut-être un impact... soit-il, peu importe, Mais cette dimension-là, oui, m'intéresse beaucoup. Effectivement, ce que Maya dit à travers ses citations, qu'elle reprend à son compte, oui, je pourrais la reprendre aussi, bien entendu. Bien entendu.
Bien évidemment, nous ne sommes pas des artistes vocaux, mais on ne peut pas quand même oublier que dans cette salle, en ceci que nous avons une voix, nous sommes tous des artisans vocaux. Et au fond, peut-être que ce soir, nous l'oublierons un peu moins après vous avoir entendu. On vous remercie.
Merci à vous.